Vous êtes à l'écoute de l'émission Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal. Chers auditeurs, bonjour. Qui ne s'est jamais interrogé sur son salut? Qui ne s'est jamais demandé si le salut était conditionné par une obéissance à certains ordres ou désirs de Dieu? Qui n'en est jamais arrivé à la question « L'homme ne doit-il pas agir d'une manière ou d'une autre pour être sauvé au lieu de rester tout simplement passif ?» Très peu de gens, j'en suis persuadé. Peut-être vous-même qui m'écoutez en ce moment, êtes-vous du nombre de ceux qui aimeraient avoir une réponse nette, claire, sur ce sujet brûlant? Voyons tout d'abord non pas ce que le Seigneur exige de nous en matière de salut, mais plutôt si oui ou non il demande à une personne responsable de ses actes de faire quelque chose pour être sauvée. En d'autres termes, la rédemption dépend-elle uniquement de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit, ou l'homme doit-il lui-même y jouer un rôle quelconque? Nous allons cerner ce problème en nous plaçant sous deux angles différents. Le premier sera théologique et le deuxième sera tout simplement biblique. La théologie ou science de Dieu n'est en fait constituée que de spéculations, que de théories humaines auxquelles leurs auteurs donnent le nom pompeux d'interprétation. Il existe tant de théories théologiques qu'à la fin, les gens se détournent complètement de la religion tellement elle leur semble touffue et compliquée. Une thèse soutenue par nombre de sectes religieuses veut que Dieu, de toute éternité, elle est par sa volonté sainte et invariable décidée par avance ce qui allait se passer. Que pour la manifestation de sa gloire, certains hommes et certains anges sont prédestinés à la vie éternelle, tandis que d'autres, par contre, vont invariablement vers l'enfer. La plupart des gens ne cherchent pas à pénétrer toute la subtilité de cette doctrine. On a tendance à croire que cela s'adresse aux hommes en tant qu'individus, alors que la Bible, quand elle parle de prédestination, se réfère à des classes et non à des personnes. Les élus sont toujours ceux qui feront ceci ou cela, et les non-élus, ceux qui n'accompliront pas telle ou telle chose. Celui qui est imprégné de la théorie de Calvin sur la prédestination de l'homme croit que l'être humain ne peut pas faire grand-chose au sujet de son salut. Les Écritures disent pourtant que nous avons une puissance du choix et de détermination. Une autre théorie dit que le salut est conditionnel et qu'il est directement subordonné à la foi. Apparemment, il n'y a là rien de contradictoire avec les Écritures. Cependant, on s'aperçoit très vite que le stade ne s'arrête pas là. Les partisans de cette doctrine prétendent également que la foi est un don direct et miraculeux donné par Dieu. Et là, ça n'en a plus du tout. On nous dit que l'homme est spirituellement mort, et que comme il a fallu un miracle pour ressusciter Lazare, qui était mort physiquement, de même, il faut une opération miraculeuse du Saint-Esprit pour ressusciter l'homme dépravé. Quelle peut être la réaction de quelqu'un d'intelligent vis-à-vis d'une telle théorie? S'il y croit et est logique avec lui-même, il y a de fortes chances pour qu'il laisse tomber les bras et ne fasse plus rien. Tôt ou tard, il versera dans le doute et le scepticisme. La Bible nous dit, en effet, en Hébreux chapitre 11 et verset 6, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce passage biblique est clair. Il démontre qu'il faut absolument avoir la foi avant de pouvoir s'approcher de Dieu et lui demander quelque chose. Par contre, la théorie dont nous venons de parler prétend que la foi est un don direct de Dieu et que par conséquent, pour devenir un croyant, il faut la lui demander. Il y a donc quelque chose qui cloche quelque part. Comment solliciter de Dieu le don direct de la foi, puisque la Bible dit que si nous n'avons pas la foi, il n'écoutera pas notre prière? Quel non-sens, quelle absurdité, ne trouvez-vous pas? Il n'est pas étonnant de voir certaines personnes s'éloigner de la parole de Dieu car elles pensent qu'elle est pleine de contradictions. Une troisième théorie, toujours humaine évidemment, est défendue avec acharnement par certains groupements religieux bien connus. Ils disent que Dieu donnera encore une occasion de se repentir dans une autre vie à ceux qui n'ont pas voulu obéir à sa volonté ici-bas. Beaucoup diront en entendant cela, mais c'est merveilleux, c'est splendide. Pourquoi m'en faire, puisque j'aurai encore une autre chance de me repentir et d'être sauvé? Alors autant profiter de la vie, buvons, mangeons, amusons-nous. Je m'arrangerai toujours avec Dieu plus tard. Il s'agit là d'une autre de ces doctrines qui empêche beaucoup de gens sincères de réagir et les dirige tout droit vers l'indifférence et le néant absolu. Une quatrième idée est très répandue et plaît beaucoup par sa simplicité. Dieu, qui est tout amour, ne peut simplement permettre qu'une seule de ses créatures soit perdue à jamais. Certains théologiens, dont l'intelligence surpasse de loin la connaissance de la Bible, pensent et enseignent qu'en dernier ressort, Dieu va tout de même sauver tous les êtres humains. C'est ce qu'on appelle l'universalisme. Cela aussi contribue puissamment à tromper ceux qui, à une certaine époque de leur vie, se tournent vers des hommes qui savent soi-disant ce qu'il faut faire. À combien de ces pauvres gens n'a-t-on déjà pas répondu « Oh, il ne faut rien faire ». Les partisans de ce salut universel ignorent que l'un des attributs fondamentaux de Dieu est la justice. L'Éternel n'est pas uniquement amour et miséricorde. S'il en était ainsi, il serait injuste, il ne serait pas digne d'être obéi et aimé. Et enfin, je voudrais vous parler maintenant d'une de ces choses que vous connaissez bien. Le salut que l'on mérite, que l'on gagne soi-même à force de faire du bien autour de soi. Telle personne a soigné son mari impotent durant 20 ans. Elle ira certainement au paradis. Telle autre a été abandonnée par sa femme ou son mari et a élevé toute seule ses 5 enfants. Oh, elle ira certainement au paradis. Que de fois n'ai-je pas entendu des histoires comme « Oh, j'ai tant souffert, j'ai tant travaillé, j'ai tant supporté, j'ai tant donné et je suis sûr que Dieu va me sauver. » Cela me brise chaque fois le cœur, car je sais que cette idée est fausse, monstrueusement fausse. C'est là se tromper soi-même par de faux raisonnements, comme le dit Jacques. Les synthèses dont nous venons de parler contiennent toutes des idées différentes et pourtant, elles mènent toutes au même résultat. Encourager les pécheurs à ne rien faire. Des centaines de livres ont été écrits pour défendre chacune d'entre elles. Mais leurs auteurs ne sont jamais arrivés à harmoniser leurs conclusions. Tout cela a contribué au cours des 50 dernières années à jeter un certain discrédit sur la Bible. Elle n'est pourtant nulle part en cause. Si on la lisait, si on l'étudiait un peu plus, on s'apercevrait vite que ce sont les théologiens qui ont conçu et défendu toutes ces doctrines dangereuses et non la parole de Dieu. Jésus dit un jour dans son fameux sermon sur la montagne, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Notre position sur le sujet de l'obéissance tient en deux phrases simples. Tout d'abord, la Bible enseigne sans doute possible que Dieu exige que nous fassions quelque chose pour être sauvés. Ensuite, toute doctrine qui conduit le pécheur à ne rien faire pour son salut est fausse et elle doit par conséquent être abandonnée. Disons-nous bien que ce ne sont pas les dogmes, les idées ou les théories qui nous mèneront au salut. Que ce que vous et moi pensons a très peu d'importance, c'est ce que les Écritures disent qui compte. Dans le second chapitre du livre des Actes des Apôtres, c'est-à-dire après la mort et la résurrection du Christ, il nous est donné de lire le récit de la conversion de 3000 adultes et la question qui leur vint tout naturellement aux lèvres après qu'ils eurent réalisé que celui qui était mort sur le bois était le Christ fut « Homme frère, que ferons-nous » « Que leur aura ?» répondit l'apôtre Pierre. « Vous ne pouvez rien faire ? Attendez que Dieu vous sauve ?» Non. Il a dit à ces gens qui déjà avaient la foi « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé » au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Ce n'est qu'après leur obéissance qu'ils ont été sauvés et ajoutés par le Seigneur à son Église. Pas avant, non, après. Dans les chapitres 9 et 22 des Actes, j'ai relaté la conversion de Saul de Tarse. Après s'être rendu compte que celui qui leur apparaissait brusquement sur la route de Damas était ce Jésus dont ils persécutaient les disciples, ils s'écrient « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Nous retrouvons la même idée d'action. Il sent qu'il doit faire quelque chose. Mais le Seigneur va-t-il répondre qu'il ne peut ou qu'il ne doit rien faire pour être sauvé? La plupart des théologiens ou des prédicateurs d'aujourd'hui auraient certainement dit « Le Seigneur vient de t'apparaître à toi seul, cela suffit pour faire de toi un chrétien, car il s'agit là d'une expérience spirituelle extrêmement enrichissante. » Mais Jésus lui dit d'aller dans une certaine maison. « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Il y a là. Et 3 jours plus tard, il s'entendit dire par Ananias ce qu'il devait encore faire. « Que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. » Ce n'est qu'après son obéissance totale qu'il a été sauvé. Pas avant, non, après. Voyons encore rapidement le cas du geôlier de la ville de Philippe, dans la prison duquel Paul et Silas avaient été jetés. Lui aussi, à un certain moment, s'écrit « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul lui dit tout d'abord qu'il fallait y croire. Cependant, il ne pouvait pas avoir la foi sans avoir entendu la prédication de la parole de Dieu. C'est pourquoi il lui annonçait la parole du Seigneur. Mais était-ce là tout ce qu'il devait faire? La foi seule ne pouvait donc pas sauver cet homme sincère et repentant? Non. Il nous est répondu à cette question en Actes chapitre 16 et verset 33, quand il nous a dit « Aussitôt, il fut baptisé ». Lui non plus ne pouvait être sauvé qu'après avoir obéi jusqu'au bout. Voyez-vous maintenant que toute la question du salut repose sur la question de faire ou de ne pas faire la volonté de Dieu? Ces quelques passages, et il en existe quantité d'autres, prouvent nettement que l'homme doit faire quelque chose pour être sauvé. C'est clair, indéniable, tout est là. Les hommes voudraient faire croire le contraire à l'aide de leurs grandes théories et de leurs grandes idées. C'est à nous qu'il appartient de ne pas nous laisser leurrer par de vains mots. Notre salut tout entier dépend d'un seul mot, faire la volonté de Dieu. La rédemption de tout homme est accordée par la grâce de Dieu et par l'intermédiaire du sacrifice de Jésus, mais il faut de notre part une action. Disons-nous bien cependant que le jour du jugement, il y aura 2 catégories de personnes, celles qui auront fait et celles qui n'auront pas fait la volonté de Dieu.
Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie. Gratuitement s'entend car nous n'avons absolument rien à vendre.
Le Seigneur m'aime, ma femme se plaint, le Seigneur m'aime, il est amour. Cela devrait toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour.
Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Au revoir, que le Seigneur vous garde et à lundi prochain, même heure.
Le Seigneur m'aime, par la souffrance, le Seigneur m'aime, il est amour. Je dirai toujours le Seigneur m'aime, il est amour.